RFI, 7h30, à Paris, 6h30 en temps universel. Et le journal avec Sébastien Duhamel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. C'est la guerre dans l'est de la RDC avec un point de situation à Kalemi tout d'abord, dans la province du Tanganyika. Le chef d'état-major des armées congolaises vient d'y effectuer un déplacement pour rassurer la population après une panique sur place la semaine dernière. Une attaque meurtrière mardi en Centrafrique imputée à des éleveurs dans la sous-préfecture de Ngaoudaï près de la frontière camerounaise. Attaque qui a fait au moins 9 morts civils. Héros national ou bandit de grand chemin au Cameroun, l'héritage d'Ernest Ouandier divise aujourd'hui. Un combattant de l'indépendance récemment qualifié de bandit lors d'une émission télé qui a provoqué de vives réactions. Un peu plus d'une semaine pour se déclarer au Gabon. Le dépôt des candidatures pour la présidentielle d'avril ouvre aujourd'hui. Étape clé censée refermer la transition. Le Gabon, qui se bat par ailleurs pour sauver ses quelques 56 langues locales menacées d'extinction. Ce sera le dossier de cette édition. La situation donc à Kalemi, pour débuter ce journal, le chef-lieu de la province du Tanganyika, dans l'est de la RDC, théâtre d'une forme de psychose. Il y a une semaine, lorsque des militaires congolais sont massivement arrivés sur les lieux, des FARDC, engagés dans un mouvement de repli face à la progression plus au nord, dans la province voisine du Sud Kivu, de l'AFC M23, toujours soutenu par le Rwanda. Mais le chef d'état-major de l'armée congolaise s'est ainsi rendu sur place il y a 3 jours à Kalemi. Il a voulu se montrer rassurant. On fait le point avec Patient Ligodi.
Plus de 2500 militaires ont débarqué à Kalemi par voie lacustre en provenance d'Ovira en raison de l'avancée de l'AFC M23. Selon des sources locales, ceux qui étaient armés ont été désarmés dès leur arrivée au port. Parmi eux, on dénombre au moins 200 blessés. Ces soldats sont actuellement regroupés au camp militaire marin où ils sont encadrés et réarmés moralement, selon le maire de Kalemi, David Mukeba, qui a confirmé à RFI qu'ils seront bientôt redéployés au front. Dans la ville, le dispositif sécuritaire a été renforcé, notamment autour du port et dans les points stratégiques. La sécurité est sous contrôle sur toute l'étendue de la ville, a assuré le maire. Les autorités locales tentent également de rassurer la population, affirmant qu'elle reste sur place et ne compte pas quitter la ville. Sur le plan économique, les activités portuaires ont repris, mais la circulation des marchandises reste perturbée. Des pénuries commencent à se faire sentir sur le marché, notamment pour certains produits alimentaires provenant de Goma et Bukavu via Uvira. Cette rareté a entraîné une hausse des prix. Face à cette situation, une réunion est prévue ce jeudi au gouvernorat. Elle rassemblera les autorités locales, la Fédération des entreprises du Congo et la société civile.
Et dans ce contexte de guerre, Patient Ligodi, 2 appels lancés hier. Le premier à l'Assemblée nationale congolaise par 4 élus qui ont parlé d'une même voix. Les députés du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri et du Maniema qui ont dénoncé les crimes commis par les éléments du M23. Et puis l'appel du procureur de la Cour pénale internationale qui a fait hier une visite en RDC. Son bureau a ouvert une enquête sur d'éventuels crimes de guerre justement et Karim Khan invite toutes les parti au conflit à respecter la loi. Il évoque par ailleurs l'idée de créer de nouvelles structures comme un tribunal pénal international pour le Congo. Et pendant ce temps, la vie quotidienne, le sport, un peu moins d'un mois après la prise de Goma, alors que l'incertitude et l'insécurité règnent encore dans plusieurs quartiers de la ville. De l'autre côté de la frontière, sa jumelle rwandaise, Gisenyi, accueillait hier l'arrivée de la 3e étape du Tour du Rwanda dans une ambiance relativement apaisée, presque comme si de rien n'était, Thomas de Saint-Léger.
Depuis leur mirador, les gardes-côtes regardent passer la course. Toute proche, Goma paraît pourtant si loin et les coureurs comme Milan Doni n'ont rien senti de particulier.
Non, je vois rien de guerre ou des choses comme ça et ou non.
Et pourtant, dans une bien moindre mesure, à Gisenyi aussi, des bombes sont tombées le mois dernier. Théophile habite ici. Il vient voir la course pour profiter et oublier.
Il y a déjà qui sont morts, les autres sont blessés. Même on a détruit quelques maisons. Mais aujourd'hui, pas de problème. Même ici à Gisenyi, il y a des Congolais qui traversent pour la fête des cyclistes.
Effectivement, même si sortir de leur ville reste dangereux, des cyclistes congolais sont là, plus discrets, moins nombreux que ces dernières années. Daniel est l'un d'eux.
Je suis venu regarder les champions, les professionnels, parce que je suis passionné du vélo.
Et parmi ces champions, des Rwandais avec qui Daniel avait l'habitude de s'entraîner. Entre eux, le contact est maintenu.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est le sport. Donc, on parle seulement du sport. La politique, ça nous touche. Ça ne touche qu'à y a la guerre, quand nos proches sont tués, mais ça ne donne pas l'autorisation de prendre les autres comme nos ennemis.
Daniel dit aujourd'hui ne vouloir qu'une chose, la paix, pour pouvoir revivre et rouler. Thomas de Saint-Léger, Guy Seny, RFI.
Les armes qui ont parlé par ailleurs mardi dans le nord-ouest de la Centrafrique, dans la sous-préfecture de Ngaoundaï et plus précisément près de la frontière camerounaise. Théâtre d'une attaque attribuée à un groupe d'éleveurs. Elle a coûté la vie à au moins 9 personnes. Plusieurs autres personnes ont été blessées. Le bilan fait état également de 700 maisons et commerces incendiés sur place. Récit, Rolf-Steph Domialeux.
Selon des sources locales, l'attaque a eu lieu ce mardi aux environs de 4h du matin. Un groupe d'assaillants armés assimilés à des éleveurs ont sémé la terreur. Le village s'est réveillé avec des coups de feu. Les assaillants étaient lourdement armés et en grand nombre, a raconté un habitant joint au téléphone. Ils ont brûlé près de 770 maisons et commerces. Des femmes et des enfants ont été froidement assassinés, a-t-il ajouté. Sur les réseaux sociaux, des images montrent des maisons calcinées et des cadavres baignant dans le sang. L'ancien député de Ngaoundaï 3, Léon Amouran, a aussi été tué dans cette attaque. Les forces armées centrafricaines basées en Zoro sont en quantité insuffisante et manquent de matériel, a expliqué Bernard Dila, député de la localité. Nous avons l'impression que cette localité est abandonnée. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités afin de protéger la population, a-t-il suggéré. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas encore réagi. Rolf-Steph Domialeux, Bangui. RFI.
Le Cameroun, face à son histoire, quelques semaines après la remise du rapport Ramondi sur le rôle de la France dans la répression extrêmement violente des mouvements indépendantistes camerounais, la figure d'un de ces mouvements se retrouve aujourd'hui au cœur d'un vif débat, la figure d'Ernest Ouandié, membre de l'UPC, compagnon de lutte de Félix Roland Moumier et Ruben Niobe, avant et après l'indépendance de 1960. Un héros national pour beaucoup, mais pour d'autres, un simple bandit, Polycarpe Samba.
La mèche a été allumée sur un plateau de télévision dimanche dernier par Abel Elimbi Lobé, promoteur d'un mouvement politique dénommé Kaotal. 4 jours plus tard, et malgré le tollé provoqué par sa sortie, il maintient Ernest Ouandié est un bandit et il s'en explique.
Monsieur Ouandié était un bandit. Il a été attrapé par l'armée camerounaise, traduit en justice, condamné pour atteinte à la sûreté de l'État. Monsieur Ouandié, sous le prétexte de lutter pour le bien du Cameroun, s'est permis de verser le sang des Camerounais qui ne lui ont rien fait. Il n'y a en politique aucune raison de verser le sang et ceux qui versent le sang en portent le prix.
Crime blasphématoire, profanation de la mémoire et désacralisation d'un héros national a aussitôt décrié une partie de l'opinion qui considère Ernest Ouandié au même titre que Ruben Niobe ou Félix Roland Moumier comme les figures les plus éminentes de l'histoire du Cameroun. Anissé Kané, président du Manidem.
Cette déclaration mais elle est scandaleuse. Personne ne peut nier que dans un front de guerre qui est des dérapages. Là n'est pas le problème. Le problème est-ce que ces dérapages sont le fait par leur commission d'une décision ou d'un avis de la direction politique de la lutte. Ouandié ne pouvait en aucun cas commanditer des actes de ce type.
Ce débat fait suite à la remise au président Emmanuel Macron et Paul Biya il y a tout juste un mois du rapport de la commission mémoire sur le rôle de la France dans les luttes d'indépendance au Cameroun. Polycarpe Samba Yaoundé, RFI.
La France et sa brouille avec l'Algérie. Une annonce hier soir. Le Premier ministre français affirme que Paris va demander à Alger de réexaminer des accords migratoires entre les deux pays. Tension relancée il y a quelques jours par l'attentat de Mulhouse en France, commis par un ressortissant algérien sous obligation de quitter le territoire français, renvoyé à 14 reprises par l'Algérie, selon la primature française.
Libreville, 104 FM.
Une étape on ne peut plus importante de la transition engagée au Gabon après le coup d'État contre Ali Bongo. L'élection présidentielle aura lieu le 12 avril et dans cette optique, le dépôt des candidatures va ouvrir aujourd'hui. Les prétendants auront jusqu'au 8 mars pour se manifester, présenter leur dossier. Mais la grande question, qui face au président de la transition, le général Oligui Nguema, dont la participation est attendue à défaut d'être annoncée pour l'heure, François Mazet.
Seules des personnalités de second ordre, voire inconnues, ont jusque-là formellement annoncé leur intention de participer au scrutin du 12 avril. Reste à voir si elles iront au bout du processus et notamment si elles pourront rassembler la caution de 30 millions de francs demandée par le code électoral. Beaucoup attendent la déclaration du général Brice Clotaire-Oligui Nguema pour se positionner. Ce devrait être la semaine prochaine. Si le chef de la transition se présentera en indépendant, il bénéficiera d'un vaste éventail de soutien de partis politiques et d'associations montée pour l'occasion. La machine de l'ex-formation au pouvoir PDG devrait se mettre à son service. Un avantage indéniable, mais qui crispe de très nombreux Gabonais. Face à lui devrait se trouver le dernier chef de gouvernement d'Ali Bongo, Alain-Claude Bilibinzé, qui enchaîne les déplacements en province ces dernières semaines. L'ex-vice-président Pierre Claver Maganga-Moussavou assure qu'il déposera son dossier, bien qu'il a dépassé la limite d'âge de 70 ans fixée par la nouvelle constitution. Candidat unique de l'opposition en 2023, Albert Ondo-Ossa ne s'est pas encore prononcé. La participation de personnalités comme le syndicaliste Jean-Rémi Yama ou Michel Ondegondou pourrait venir pimenter la course.
Les explications de François Mazet. Et on reste au Gabon pour notre dossier du jour. Il est consacré ce matin à la menace qui pèse sur les langues locales, car le pays est l'un des rares qui ne dispose d'aucune langue nationale. Et ce qui inquiète, c'est que les langues maternelles ou vernaculaires sont de moins en moins parlées par les jeunes. Constat alarmant pour le gouvernement gabonais qui a décidé d'essayer de sauver ces langues qui sont avalées, entre guillemets, par le français, la langue officielle du pays. Et ce sauvetage des langues locales, ça passe évidemment par l'éducation dans les écoles, mais pas uniquement. Reportage Yves-Laurent Goma.
Samba veut dire bienvenue en Pounou.
Un bravo pour Yens. Deux bravo. Un cri de joie.
C'est le cours préféré de la maîtresse Sylvana Monsunda du complexe scolaire Les Dauphins. L'apprentissage du Pounou, l'une des langues parlées dans le sud du Gabon. L'enseignante elle-même n'a aucune formation pour enseigner cette langue.
En entendant le programme officiel, on anticipe d'abord avec les enfants de cette manière.
Le polyglotte, c'est pour sauvegarder notre identité.
Chaque jour de lundi à vendredi, Radio Gabon organise une compétition en langue nationale. Le polyglotte est l'une des principales initiatives pour inciter les Gabonais à parler leur langue maternelle qui se meurt. Théophile Liemobasango est l'animateur de ce défi qui dure depuis 30 ans.
J'ai 53 minutes par présentation et j'ai un rythme d'un coup de fil par minute.
Antoine Essono, sexagénaire, pense que le colon français a tout fait pour tuer les langues maternelles en obligeant tout élève qui parlait sa langue à l'école de porter un crâne de singe appelé symbole.
La principale conséquence, ça nous amenait à négliger nos propres langues vernaculaires et à privilégier la langue du blanc. Ça a eu des répercussions sur la conservation de nos langues.
65 ans après son indépendance, le Gabon conçoit enfin des outils pédagogiques pour enseigner quelques langues locales à l'école. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Et les initiatives en effet pour sauver ces langues ne manquent pas. On parlait de la présidentielle qui se prépare. Eh bien désormais, pour être candidat, il faut obligatoirement parler une des 56 langues locales. Est-ce que ça va suffire? Écoutez la réponse du linguiste Franck Idiata.
Pourquoi les langues se perdent? Les langues se perdent à cause du modernisme, à cause du changement de vie. On vit en ville plutôt qu'au village. Or, la langue gabonaise a plus de fonctions dans le village où elle est pratiquée, alors qu'en ville, c'est la langue d'intégration qui est la langue officielle du pays, qui est le français. À cela s'ajoute l'école. L'école en français, la vie du pays en français, l'administration en français, l'église en français, toutes les fonctions de communication en français. Voici la raison qui fait que, malheureusement, de plus en plus d'enfants perdent aujourd'hui les langues des différentes communautés nationales, dites langues nationales.
Et comment faire pour les sauver? Est-ce que c'est irréversible, cette perte?
Je crains que ce soit irréversible pour une grande majorité de langues. Certaines vont résister un peu plus longtemps, celles dont les individus ont finalement pris conscience de leur intérêt et qui vont faire en sorte de les transmettre aux enfants. Voilà la solution. Il n'y a pas de miracle.
Le linguiste Franck Idiata, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo de Libreville, pour refermer notre journal. Restez avec nous, notre matinale continue avec Julien Coquelle-Rohem.